Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors vous le savez, il est à mes côtés tous les jours après ses consultations. C'est de vous, auditeurs d'Europe 1, qu'il vient prendre soin. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Mais pour les intimes, Jimmy, ouais. Ça va. Je crois que vous commencez à faire partie des intimes.
Ah bon, allez, on peut dire ça, on se voit tous les jours en tout
voilà,
cas.
Voilà, d'un point de vue professionnel, évidemment.
Bien sûr. Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons nous intéresser à l'inflammation, un phénomène biologique qui peut entraîner des maladies. Alors comment la prévenir? Comment la soigner? Mais du point de vue de l'alimentation. Pour parler de ce sujet, nous recevrons en studio le docteur Catherine Lacronière, elle est médecin nutritionniste à Paris et vous verrez, ce sera aussi une émission gourmande puisqu'elle nous donnera quelques recettes de quoi nous mettre l'eau à la bouche avant le week-end. Ensuite, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque sera avec nous pour sa chronique beauté. Aujourd'hui, il a décidé de s'ancrer dans l'actualité puisqu'il va nous donner tous ses meilleurs conseils, maquillage, coiffure, mais en version masquée, de quoi être tous en beauté en respectant bien sûr les gestes barrières. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous expliquera ce que veut réellement dire l'addiction au sexe.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 et on va démarrer par cette question que nous a posée Mathis.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il faut mettre un masque sur la bouche et sur le nez puisque nos postillons ils sortent juste de la bouche, non ?
Alors Jimmy, je crois qu'on peut confirmer à Mathis le masque, même si on voit parfois des gens avec le nez dehors, c'est bien très important pourtant de couvrir tout le visage, enfin le bas du visage.
Oui, mais je vous conseille de ne pas vous bagarrer avec les personnes parce que c'est vrai qu'il y a un climat un peu tendu.
Oui.
Et c'est vrai que c'est agaçant de voir des gens ne pas porter leur
tout
masque.
Tout le monde poste sur les réseaux sociaux, regardez celui-là dans le métro, il ne le porte pas, il le porte
c'est
mal.
C'est vrai que c'est frustrant, mais il faut faire attention.
C'est une perte de temps de s'occuper des autres.
Une perte de temps, souvent les gens sont très à cran, très à bout, donc vous pouvez le dire gentiment et dire que vous craignez pour votre santé ou celle des autres, s'il vous plaît. Voilà, c'est un tout petit conseil du quotidien. Mais oui, vous avez raison, il faut le mettre à la fois sur la bouche et sur le nez, puisque le virus va sortir par la bouche et rentrer par le nez. Ce qui veut donc dire que lorsque vous le mettez pas correctement, eh bien vous avez fait la moitié du chemin. Vous l'avez mis au niveau de votre bouche, donc vous allez protéger les autres. Mais ce serait bien de vous protéger vous aussi. Donc mettez-le correctement, ajustez-le au niveau du nez, puisque ça va limiter les fuites d'air. Et on sait que plus il y a de fuites, plus il y a un risque que le virus rentre.
De fuite du masque, hein, c'est ça.
Exactement.
C'est-à-dire que s'il n'est pas serré bien comme il faut
exactement.
Contre le
comme
visage...
Exactement, comme ils ne sont pas parfaits, de base, ces masques-là, eh bien, vous risquez d'être contaminé. Donc mettez-le correctement, c'est pour votre sécurité et celle des autres.
Puisqu'il parle de ce nez dehors, entre guillemets, on est d'accord que de toute façon, c'est bien dans le nez qu'on va chercher le virus quand on fait le fameux test PCR. Donc c'est bien qu'il y a du virus dedans et que s'il est dedans, bah, si je sais pas, on éternue par exemple, il peut sortir.
Exactement, l'immense majorité des contaminations, c'est environ 70 à 80% des cas, c'est la contamination par aérosol. Il y a un peu de transmission par les mains, 15 à 20%, donc évidemment, il faut se laver les mains. Mais le virus, il va rester dans l'air, en suspension, au travers de micro-gouttelettes qui vont être plus légères que l'air et faire qu'il va y avoir un nuage de particules. Ce qui veut donc dire que si vous ne portez pas un masque, si vous avez une personne dans une pièce qui parle simplement, pire encore, qui chante, qui crie ou qui éternue, eh bien, vous augmentez la probabilité de tomber malade. Donc, mettez un masque. Je sais, on le répète du matin au soir depuis de nombreux mois, mais c'est encore vrai actuellement, malheureusement.
Et donc c'est vrai, enfin, le masque, est-ce qu'il y a des études en population comme ça qui montrent qu'avec ou sans masque, on ralentit, je ne sais pas de combien, la transmission du virus dans
Alors,
une pièce fermée,
par
exemple.
Il y a des modélisations qui se font, mais ce qu'on a observé à l'hôpital, c'est qu'à partir du moment où les soignants mettaient correctement le masque, on n'avait plus de contamination. Donc c'est un milieu vivant dans lequel on s'est rendu compte que c'était efficace. Alors oui, il y a des modèles expérimentaux, notamment les Japonais ont montré ça. Donc oui, ça réduit la contamination et plus encore, ça va réduire aussi la charge virale si jamais vous tombez
malade.
Oui,
j'étais au foyer, quelqu'un de Exactement. Malade. Moi, quand j'étais malade, j'hésitais à porter le masque à la maison, j'étais isolée dans ma chambre. Mais est-ce que j'aurais dû, en portant le masque, on limitait le risque que les autres soient malades ou moins malades en
Exactement.
Tout cas
Exactement, vous limitez la quantité de virus et on limite du coup la forme grave de maladie. Donc à la fois, ça vous évite de tomber malade et si jamais vous attrapez le virus, eh bien, vous ferez une forme mineure. Donc c'est un intérêt supplémentaire au port du masque.
Très bien, on va passer à la deuxième question. Encore une question en lien avec l'épidémie de coronavirus. On en reçoit encore pas mal en ce moment. Cette fois, c'est David qui nous l'a posé sur notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour docteur, bonjour Mélanie. J'ai l'impression d'avoir régulièrement des plaques rouges quand j'utilise mon gel hydroalcoolique. Est-ce qu'on peut être allergique au gel hydroalcoolique? Merci beaucoup.
Jimmy, question simple. Est-ce qu'on peut être allergique donc, au gel hydroalcoolique?
Oui, on peut être allergique à toute substance, quelle qu'elle soit. Néanmoins, la vraie allergie au gel hydroalcoolique doit être exceptionnelle. Et parfois, on peut être allergique un excipient à parfum, un additif, notamment ceux qui vont justement sentir un peu bon.
Il vaut mieux les prendre le plus nature possible.
Exactement, enfin, parce que normalement, les gels hydroalcooliques, c'est de l'alcool, un émollient, donc quelque chose pour éviter que ça assèche les mains. Et donc, les formes d'allergie sont plutôt rares, sauf si vous avez une sensibilité cutanée, notamment un eczéma qui serait en poussée, une maladie dermatologique qui serait inflammatoire, comme du psoriasis. Et donc, si vous mettez de l'alcool au contact, notamment d'une plaie, eh bien, ça va piquer. Donc, c'est peut-être plus un problème de maladie dermatologique initiale plus qu'un problème de gel hydroalcoolique. En revanche, des alternatives existent. Il suffit tout simplement de se laver les mains, car le gel hydroalcoolique n'est pas obligatoire si on a de l'eau et du savon.
Alors, justement, pour quand même régler le problème de David, qui dit qu'il a des plaques rouges, sur les mains, qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça aille mieux?
Tout d'abord, c'est savoir pourquoi il a ces plaques. Ne pas arrêter de se laver les mains et justement remplacer le gel par le savon, puisqu'il faut savoir que le gel hydroalcoolique ne marche pas sur des mains souillées. Donc, d'une façon générale, on peut éviter de s'en passer. Donc, on recommande aux enfants de se laver les mains. Et surtout, au bout de 3, 4, 5 utilisations, le gel ne marche plus. Donc voilà, consultez pour ça. Mais non, parce qu'au bout d'un moment, les mains sont souillées. Donc, il faut passer au savon. Donc, du coup, consultez sur sa pathologie dermatologique. Et puis, passer à une méthode, on va dire, alternative, tout en respectant les autres gestes barrières.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme David, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, allez-y.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité en studio avec nous aujourd'hui. C'est vous, docteur Catherine Lacronière. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors vous êtes médecin nutritionniste à Paris et l'auteur du livre, alors je le montre tout de suite pour ceux qui ont la caméra, Prévenir et soigner l'inflammation chez Hugo Poche. Alors justement, on va parler de la prévention et du traitement donc de l'inflammation par le biais de l'alimentation aujourd'hui. Mais avant ça, avant de passer donc à ces détails de notre assiette, on va peut-être reprendre le sujet à la base et on va faire avec vous peut-être l'inflammation pour les nuls, parce que c'est un sujet un peu complexe, mais on va expliquer ça simplement. C'est quoi l'inflammation?
Alors c'est vrai que quand on parle d'inflammation, on a l'impression qu'on rentre tout de suite dans le domaine médical et de ne pas savoir exactement ce que ça signifie pour soi. Alors d'abord, il faut faire le distinguo entre l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique.
L'inflammation... Qui n'est pas toujours mauvaise d'ailleurs.
Ah non, l'inflammation aiguë, elle est même vitale. C'est véritablement un mécanisme de survie, de défense contre les agresseurs. C'est un mécanisme qui va permettre de circonscrire cet agresseur, de s'en débarrasser et de guérir. Le problème, c'est quand l'agresseur perdure, l'inflammation s'installe, elle devient chronique et là, d'allié, elle devient ennemi.
Et justement, qu'est-ce qui peut provoquer cette inflammation chronique?
Alors, un certain nombre de facteurs, dont déjà une mauvaise alimentation, une alimentation déséquilibrée, et puis les 3 S, un mauvais sommeil, une sédentarité et un stress, mais également les pesticides dans une alimentation qui ne serait pas bio, ou la cuisson à haute température, ou encore des polluants. Faire du vernis, de la peinture par exemple, peut déclencher une inflammation, et puis il y a des phénomènes allergiques.
Vous disiez le stress qui est peut-être donc à l'origine d'une inflammation chronique, c'est embêtant ça dans une société surtout en ce moment dans laquelle on est un petit peu tout stressé quand même.
Très très compliqué à gérer le stress. Alors bien sûr on ne veut pas, on ne peut pas supprimer ces facteurs de risque, mais on peut essayer de lutter au mieux et d'utiliser tous les petits trucs contre le stress qui sont d'ailleurs également, qui passent par exemple par une activité physique régulière, par de la sophrologie, de la méditation, enfin tout est possible pour essayer de limiter, même si on ne peut pas supprimer.
Et justement, votre spécialité, c'est l'alimentation. Est-ce qu'il y aurait un certain modèle alimentaire qui pourrait se cacher derrière une inflammation chronique?
Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle la junk food.
Je vous préviens, Jimmy, c'est exactement ce que vous mangez. Écoutez.
Ah, je n'ai pas vu votre repas de...
Ouais, moi, je le connais.
S'il n'est pas joli, joli. Voilà.
Je pense que vous ne validez pas. Voilà.
Donc, c'est une alimentation qui est riche en acides gras qu'on appelle saturés, en excès, bien sûr. C'est quand on consomme trop de charcuterie, de viande rouge grasse ou de fromage en excès. Et d'acides gras trans. Alors, nous y reviendrons, j'imagine. Mais les acides gras trans, ce sont des acides gras issus de la transformation chimique industrielle des huiles pour donner quelque chose qui est plus fondant sous la bouche. Et le problème de ces acides gras trans qu'on trouve sous le nom de graisse hydrogénée ou graisse partiellement hydrogénée, eh bien, c'est que ça favorise l'inflammation et en particulier les maladies cardiovasculaires.
Il y a aussi l'acide arachidonique, je l'ai bien dit, je crois. Voilà. Concrètement, on le trouve dans quel aliment? Donc, un acide qui favorise là aussi l'inflammation, c'est quoi? Et
alors,
quoi
comme toujours en nutrition, il faut faire le tri parce que l'acide arachidonique, ça fait partie d'acides gras essentiels qu'on appelle les oméga 6, mais qui sont plus favorable à l'inflammation. Mais on a dit tout à l'heure que l'inflammation aiguë, elle est primordiale. Donc, on a quand même besoin de cet acide arachidonique. Mais quand on veut lutter contre l'inflammation chronique, eh bien, on va limiter cet acide arachidonique. On va le trouver dans le jaune d'œuf, par exemple, dans le beurre et dans certains produits laitiers.
Ça veut dire qu'on ne peut plus en manger du tout parce que moi, si, j'aime bien le beurre sur ma tartine.
Oui, mais il en faut.
Et l'œuf, le jaune d'œuf, c'est ce qui est le meilleur.
Mais oui, tout à fait, il en faut. Puis, je vous l'ai dit, on en a besoin pour notre défense. Mais tout est question d'équilibre. Et en fait, ce n'est vraiment pas ça qui soit le plus méchant au niveau de l'alimentation pro-inflammatoire. Il y a des produits comme des sucres, hein, des index glycémiques élevés, des sucreries qui vont provoquer une modification du travail d'une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va favoriser aussi cette inflammation. Donc, on mange de tout, mais il ne faut pas diaboliser l'œuf non plus. Hein,
et est-ce que, du coup, cette inflammation, elle est spécifique aux adultes ou il faut faire attention aux enfants, puisque si on considère qu'ils ont un poids normal, on pourrait se dire que en apparence tout va bien, même s'ils raffolent de ces hamburgers, de ces nuggets, c'est tout le tralala, c'est pas terrible, je suppose.
Alors tout va bien, mais en effet c'est pas terrible. Et puis l'éducation nutritionnelle, ça commence jeune. Alors justement avec cette génération des enfants et des ados qui consomment beaucoup de cette fameuse junk food, il y a des acides gras trans dans les chips, il y en a dans certains gâteaux du commerce. Eh bien, on sait qu'il faut les limiter à moins de 2 grammes par jour. Le problème, c'est que ce n'est pas marqué sur les emballages.
C'est pas du tout combien on en consomme.
Non, parfois c'est pas indiqué du tout. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra faire attention à ces jeunes qui vont grandir et qui risquent à l'âge adulte d'être une génération plus à risque au niveau des pathologies cardiovasculaires.
Surtout qu'il y a un moment clé, c'est le goûter. Les enfants, ils adorent ces gâteaux industriels. Alors, si on leur propose des chips, c'est pas du tout un
bon
goûter.
Moi, quand je fais du pain et du chocolat, parfois ça marche, mais ils veulent quand même toujours ces petits gâteaux. Hein,
c'est
les
orées, dommage, parce
machins, là, qui sont pas bons du tout, je pense.
Alors, la question aussi d'éducation, c'est à nous, parents, de proposer, de montrer à quel point c'est délicieux, c'est vrai, un bon morceau de pain avec du chocolat. Ça peut être aussi fondant que un gâteau du commerce et pourtant beaucoup moins nocif.
Jimmy, tous les midis, je vais donner un petit secret, j'ai le droit. Hein.
Oui, allez-y.
Il est quand même, je parle souvent de pizza, mais en réalité, il est très sandwich. Il mange un sandwich quasiment tous les midis.
Ouais,
je vous vois sortir de consultation avant d'arriver ici.
C'est
un sandwich rapidement avalé. Oui. Ça, c'est quoi c'est...
Les kebabs aussi, j'adore les kebabs.
Ça, c'est ça doit, pour l'inflammation, ça ne doit pas être terrible.
C'est pas terrible, je crois, les kebabs. Ne ruinez pas cette journée qui avait plutôt bien commencé.
Non, j'allais vous proposer un sandwich anti-inflammatoire avec. Mais oui, ça existe.
Écoutez bien.
Du pain riche en fibres et en graines, un pain avec une appellation nordique, par exemple viking, drakkar ou baltique.
Ça, vous savez pas ce que c'est.
Si, parce que ma femme en achète, hein, sinon moi je ne savais pas. Hein, du pain baltique, effectivement.
À acheter en boulangerie, surtout.
Raison.
Mettre à l'intérieur, eh bien, on peut mettre un peu de poulet. Je préfère les produits frais aux produits sous vide. Un peu de poulet et puis de la tomate, une feuille de salade. Et puis pourquoi pas à côté, vous préparez...
Vous êtes en mayonnaise souvent.
Ouais, c'est vrai.
Je préfère un petit peu d'huile d'olive qui est parfaitement anti-inflammatoire parce qu'elle contient d'abord des acides gras monoinsaturés qui sont bons pour la prévention cardiovasculaire. Et puis une petite molécule qui s'appelle l'oléocantal qui est anti-inflammatoire.
C'est du fromage ? Non, ça n'a rien à voir.
Ah bah oui, on peut mettre du fromage. Ouais. On peut mettre un petit peu de... C'est pas le cantal comme ça, non ? Mais on peut mettre un peu de chèvre frais, par exemple.
Ça vous dit, là ?
C'est pas mal, non, mais si, c'est vrai, parce qu'on pense que c'est un truc inaccessible et qu'on voilà, mais ça, voilà, le pain baltique, je vais retenir du poulet, de la tomate et de la salade.
Voilà. Bah, et du chèvre frais.
Et du chèvre. Non mais franchement,
il est gourmand ce sandwich.
Ouais, vendu. Non mais
il
ça marche.
Mieux que votre ton maillot. Allez, c'est parfait. Docteur Lacronière, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous. 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors en studio aujourd'hui, notre invité, c'est vous, docteur Catherine Lacronière. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris et vous êtes également l'auteur du livre Prévenir et soigner l'inflammation chez Hugo Poche. Alors à présent, on va passer justement dans notre frigo, dans notre assiette. On peut, monsieur et madame tout le monde, se nourrir avec une alimentation anti-inflammatoire. Et je crois que la base de cette alimentation anti-inflammatoire, c'est un régime méditerranéen un peu élargi. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. J'aime dire que c'est un régime, plutôt une alimentation qui est à la croisée du régime méditerranéen, qui a fait ses preuves dans la prévention de beaucoup de maladies chroniques, en particulier cardiovasculaires, et de l'alimentation ayurvédique. Parce qu'en fait, c'est un régime méditerranéen avec beaucoup d'herbes et d'épices qu'on utilise déjà dans l'alimentation méditerranéenne. Mais là, on va rajouter du gingembre, du curcuma. Et c'est vrai que c'est une alimentation extrêmement variée et donc extrêmement goûteuse.
Et donc, quand j'entends tradition ayurvédique, moi, je pense à la mâche. C'est-à-dire qu'il faut aussi mâcher. Est-ce que c'est important de manger plus doucement? On a tendance à...
Non, ça, je sais même pas. Moi, je savais pas qu'il fallait mâcher dans la cuisine. Vous avez plus de notions nutritionnelles et tout ça.
Je cache bien mon jeu, Madame Gomez. Que croyez-vous?
Alors, de toute façon, c'est très important de manger tranquillement, assis à table, et de bien mâcher, de prendre son temps. Parce que tout ça, ça favorise la satiété. Et cette satiété, eh bien, si on mange trop vite, quand les signaux arrivent, c'est trop tard. On a déjà terminé, on a déjà mal au ventre et puis on a souvent des kilos en plus. Or, on sait que, par exemple, l'obésité est une maladie inflammatoire. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Ce qui va l'être aussi, en plus, ce sont les cuissons. Parce qu'il faut cuire à des températures qui ne soient pas trop élevées.
Bon bah Jimmy, c'est le roi du barbecue en été. Donc là, je pense qu'encore une fois, il a tout
après
trop. Je balance.
Même hier, je vous assure, j'étais prêt à sortir le barbecue pour faire de la viande parce que je me suis dit, elle aura un meilleur goût. Mais je me suis dit, il pleuvait, c'est pas très
bien. Aidez-le, docteur Lacronière.
On peut quand même faire du barbecue à condition de ne pas faire trop souvent. Et puis, on va faire mariner les viandes. Et par exemple, on va plonger votre viande dans du citron parce que cette vitamine C va limiter la formation de ces molécules délétères qu'on appelle les produits terminaux de la glycation. C'est en fait une réaction chimique, la réaction de Maillard entre protéines et sucre qui provoque des molécules non seulement pro-inflammatoires, mais éventuellement même possiblement cancérigènes.
Alors c'est quoi la cuisson anti-inflammation du coup, puisqu'on y est?
Alors on essaye de garder le maximum de nutriments, donc la cuisson vapeur par exemple.
Pas à l'eau, dans la casserole à l'eau, c'est pas terrible.
Le problème de l'eau, c'est qu'on perd une partie des nutriments. Alors si vous réutilisez l'eau et que vous la consommez, bah, finalement on s'en sort pas mal. Et puis il y a la cuisson au wok, à condition qu'on le fasse longtemps et à petite température, et tout ça nous permet de rajouter nos herbes et nos épices.
Alors pour l'instant, on va s'intéresser aux personnes bien portantes. On fera un petit focus sur certaines maladies. Mais la base d'une alimentation sans inflammation, c'est une alimentation plutôt végétale, c'est ça?
Exactement, végétarienne. Beaucoup de fruits et de légumes qui sont la pierre angulaire de cette alimentation, auquel on va rajouter des céréales complète. Donc, il y a du pain dans notre alimentation, à condition qu'on ne soit pas, bien sûr, intolérant au gluten. Dans ce cas-là, on va choisir des pains sans gluten. Et sinon, tous les autres favoriseront des farines complètes. Et il y a des féculents complets également et des légumineuses. Tout ça pour avoir un index glycémique élevé, bas, et des fibres. Et on n'oubliera pas les petits plaisirs de la vie avec les antioxydants qu'on va trouver dans le chocolat noir, par exemple. Un petit peu de vin, mais sans excès. Et puis du thé. Voilà, c'est une alimentation donc assez large.
Ça veut dire qu'on oublie la viande complètement?
Alors non, il y a de la viande, mais il y a moins de viande rouge. Ça, c'est sûr. On n'a pas d'implication inflammatoire à partir du moment où on consomme de la volaille ou de la viande blanche. Par contre, la viande rouge, et c'est ce que dit d'ailleurs le CIRC, qui est le comité international de la recherche sur le cancer, c'est que de consommer plus de 100 grammes de viande rouge par jour ou 50 grammes de viande transformée, par exemple, c'est tout ce qui va être...
Une saucisse.
Saucisse, eh bien, cet excès de consommation de viande rouge est potentiellement cancérigène, et l'excès de consommation de viande transformée, elle, est cancérigène.
Alors, vous l'avez dit, il faut privilégier des aliments avec un index glycémique bas, mais je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde.
Moi, je l'entends souvent, et puis en détail, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire.
Oui, parce que vous savez, nous, en nutrition, on aime bien faire évoluer, échanger et embrouiller tout le monde, finalement.
Alors, soyez clair.
Désembrouillez-nous. Avant, on parlait de sucre rapide et de sucre lent.
Ah, c'était bien, voilà. Moi, ça, je comprenais bien.
Oui, mais... c'était assez clair, sauf que une chercheuse de Nouvelle-Zélande qui s'appelle Jenny Brand-Miller a décidé a tout à fait eu raison de changer les choses avec un tableau. Elle a pris comme référence le sucre de table. Elle a donné à ce sucre de table l'indice 100 parce qu'on a regardé ce qui se passe après consommation de sucre de table et on regardait l'augmentation de sucre dans le sang. Et on a comparé tous les aliments
à ça.
Voilà. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait les classer en trois catégories, index glycémique bas, moyen et élevé. Et c'est ce qui est élevé peut avoir donc un impact pro-inflammatoire. Et là où on s'est un petit peu compliqué les choses, avant les pâtes, ça faisait partie des sucres lents. Et bien aujourd'hui, on sait que des pâtes avec une farine blanche vont avoir un index glycémique plus élevé.
Je crois que la cuisson des pâtes compte aussi pour l'index glycémique. Plus elles sont cuites, moins c'est bien.
Exactement. Donc en fait, pour avoir l'index glycémique parfait, il faut les manger al dente.
Et ben voilà, c'est ce qu'on fait. Jimmy aussi, vous les mangez comme ça?
Oui, exactement. Je les jette contre le mur et si elles collent, c'est la bonne cuisson.
Il y a toujours des conseils à lui.
C'est à la tunisienne, on appelle ça. Alors, vous l'avez un tout petit peu évoqué, vous avez parlé du gluten. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que ça a été l'ennemi pendant très longtemps. Alors, est-ce que ce serait un truc pro-inflammatoire ou finalement, si on n'est pas intolérant, il n'y a pas de problème?
Alors, c'est inflammatoire pour les gens qui, en effet, sont intolérants vrais au gluten.
Il y en a peu, finalement.
Voilà, et c'est un diagnostic médical. C'est votre médecin qui va doser des anticorps, les anticorps anti-gliadine et anti-transglutaminase. Et après, ça sera confirmé par un gastro-entérologue qui fera une fibroscopie et une biopsie pour voir si vous présentez ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Parce que dans ce cas-là, oui, c'est très pro-inflammatoire, mais c'est surtout primordial de faire une éviction complète et à vie du gluten. Pour tous les autres, a priori, le gluten n'est pas inflammatoire.
D'accord. Alors, il y a un aliment que vous conseillez. D'ailleurs, on nous l'a conseillé hier aussi dans notre émission, le kéfir. Mmh. Alors, on nous a dit hier que le kéfir, c'était bon pour le microbiote. Je crois que c'est ce que vous dites aussi. C'est anti-inflammatoire. Donc.
C'est vrai.
Mais alors, c'est quoi ce kéfir? Dites-nous tout là-dessus.
Alors, le kéfir, Ruben Sarfati, le chef avec qui j'ai écrit le livre, a fait deux recettes extraordinaires de kéfir. Donc, ce sont des grains de kéfir qu'on va faire fermenter parce qu'en fait, le kéfir est un aliment fermenté qui contient ce qu'on appelle des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries bénéfiques qui vont améliorer notre microbiote. Et le microbiote, on en parle tout le temps, mais c'est vrai, avoir un microbiote de qualité, c'est d'abord avoir une meilleure immunité. Et en plus, ça limite le passage, ça augmente la perméabilité de la barrière intestinale. Et donc, c'est très important dans l'inflammation d'avoir un microbiote de qualité.
Je crois qu'on va l'acheter du kéfir ce week-end, Jimmy, parce que ça fait deux fois, deux invités deux jours de suite.
Je me dis qu'il y a un truc, évidemment, là-dessus.
On va chercher.
Dernière astuce, herbes et épices, c'est pas mal dans une alimentation anti-inflammatoire.
Ah oui, c'est assez extraordinaire parce que, par exemple, dans le curcuma, il y a de la curcumine qui, dans le tube à essai, est extrêmement anti-inflammatoire. Le problème, c'est que pour que ça le soit également au niveau de l'organisme, eh bien, il faut... Parce que si vous saupoudrez votre curcuma, en quelque sorte, ça rentre et ça sort. Et ça ne passe pas à travers la barrière intestinale. Donc, il faut que vous le mélangiez avec un petit peu de gras, un petit peu d'huile d'olive, par exemple, ou d'huile de coco, pour que ça passe et que ça puisse faire son effet anti-inflammatoire. Et c'est tellement anti-inflammatoire qu'aujourd'hui même, nos confrères rhumatologues peuvent conseiller du curcuma pour lutter en particulier contre les douleurs articulaires.
Du curcuma avec du gras, Jimmy, c'est génial. Alors, docteur Lacronière, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invitée, elle est en studio avec nous aujourd'hui, c'est vous, docteur Catherine Lacronière. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris et l'auteur du livre « Prévenir et soigner l'inflammation » chez Hugo Poche. Alors, à présent, on va s'intéresser à quelques maladies dans lesquelles l'inflammation est présente et on va commencer par une qui est très fréquente dans notre pays puis ailleurs, hein, l'arthrose, une maladie qu'on peut améliorer mais pas guérir, mais dans laquelle il y a donc de l'inflammation et dans laquelle vous dites, vous, dans votre livre, que l'alimentation est très importante. Qu'est-ce qu'on mange quand on a de l'arthrose ?
Oui, alors, c'est une inflammation chronique et qui fait souffrir au quotidien pratiquement 900 000 personnes. Donc, c'est vraiment une pathologie très commune. Et eh bien, on a montré, et ça, ce sont les études de recherche qui ont montré qu'une alimentation végétarienne permettait, non pas de supprimer, vous le disiez très bien, mais de limiter les signes et d'améliorer le bien-être au quotidien. Une alimentation végétarienne auquel on va rajouter des épices. On parlait du curcuma tout à l'heure, mais également le gingembre qui peut avoir une action...
Et vous dites aussi qu'il faudrait aller chez eux, leur mettre, pas les bombarder, mais y aller de bon cœur sur les oméga-3.
Exactement. Alors, les oméga-3, ce sont des graisses qui ont une forme chimique, on les appelle insaturées. Ce sont également des acides gras essentiels. Le corps ne sait pas les fabriquer, donc on est obligé de les récupérer dans l'alimentation. Et les oméga-3 sont véritablement très anti-inflammatoires. Il y a aussi beaucoup d'études dans l'arthrose qui montrent que ça lutte contre cette inflammation.
C'est l'huile de lin, par exemple,
oui,
je
alors
crois,
il y a...
l'huile de... Je sais pas,
tout à fait, deux origines. Une origine végétale, l'huile de lin, mais également l'huile de colza, l'huile de noix. On les trouve aussi dans les graines et dans les oléagineux. Et puis, il y a une source animale avec les poissons gras. En particulier, on va choisir plutôt des petits poissons, parce que vous savez que les gros poissons prédateurs sont plus riches en toxines diverses et variées. Donc, on va se diriger vers le maquereau, vers la sardine. Voilà, très riche en oméga-3, sans pour autant avoir...
Tout ce que je déteste. Donc, je vais prendre de l'huile de lin, ça ira très bien.
Mais justement, si on n'aime pas ces petits poissons,
moi,
on a peur de la contamination,
ça, ouais.
Est-ce que les gélules, parce que ça se vend aussi en pharmacie, des gélules avec des compléments, notamment d'oméga-3, je crois même d'oméga-6, est-ce que ça vaut le coup de se faire une cure, je ne sais pas, est-ce que... Pour le tout venant.
Alors c'est vrai que les nutritionnistes vous diraient que normalement, on devrait pouvoir tout trouver
dans
l'alimentation équilibrée.
Moi, je déteste
idéal.
Les petits poissons. Alors, je fais comment? Parce que j'aime les gros poissons, mais bon, j'en mangerai pas. Alors, puis vous avez dit qu'ils n'étaient pas bons.
Vous pouvez prendre des gros poissons peut-être bio et puis moins souvent. En fait, l'ANSES nous dit que de toute façon, il ne faut pas dépasser 2 fois par semaine pour la consommation des poissons. Ça serait d'ailleurs 1 fois un poisson gras et 1 fois un poisson blanc. Les compléments alimentaires, pourquoi pas, mais sur une durée transitoire et dans des indications bien précises.
Alors, autre maladie dont on parle peu, enfin, même si on en parle quand même de plus en plus, et qui touche de nombreuses femmes, 1 sur 10, l'endométriose. Là aussi, il y a une histoire d'inflammation dans cette maladie. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez pour des femmes qui sont touchées en termes d'alimentation?
Alors là encore, les oméga-3 qui reviennent à chaque fois dans la prise en charge de l'endométriose, les fruits et les légumes, et puis tout ce qui va être pas mal d'oléagineux, parce que ça nous permet aussi d'augmenter cette fameuse consommation d'oméga-3, sans oublier les herbes et les épices.
Plus étonnant, dans votre livre, vous parlez du rôle de l'alimentation dans des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment qu'on ne va pas traiter une maladie d'Alzheimer avec, mais les données malgré tout s'accumulent en faveur d'un régime méditerranéen qui pourrait protéger de la maladie.
Exactement. C'est assez étonnant d'ailleurs de lire toutes ces études parce que bien entendu, on ne peut pas éviter Alzheimer. On rappelle qu'il y a une notion de génétique qui est incontournable malheureusement dans cette pathologie. Mais il y a des études qui nous disent qu'en mangeant assez tôt dans la vie une alimentation spécifique, eh bien, on pourrait repousser peut-être les premiers signes. Alors on a essayé...
Donc l'inflammation dans le cerveau, parce qu'il y a de l'inflammation dans Alzheimer, c'est ça?
Oui, il y a de l'inflammation à la fois au niveau du neurone et autour, dans ce qu'on appelle la microglie, qui sont toutes ces cellules autour, tout cet environnement des neurones, microglie qui est activée, qui est inflammée et qui va aggraver les symptômes, surtout quand ça se passe dans l'hippocampe, donc au niveau de la mémoire. Et en fait, on a des études en cours là, sur l'alimentation anti-inflammatoire, mais il y a un autre régime qui est très proche finalement, qui s'appelle le régime MIND, M-I-N-D, comme l'esprit, qui est l'association d'un régime méditerranéen, déjà, et d'un régime DASH, qui est le régime contre l'hypertension.
D'accord.
Et là, on a aussi de très bonnes études, mais en fait, finalement, on est encore une fois dans un régime anti-inflammatoire, un régime méditerranéen élargi.
Alors du coup, est-ce que le curcuma pourrait aussi, vous avez dit, c'est anti-inflammatoire, pour le cerveau, ça marcherait aussi? Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous dire, allez-y, bombardez-vous de curcuma en plus pour le cerveau?
Il bombarde d'oméga-3, de curcuma, Jimmy bombarde.
Tout ça dans la limite, on sait, on le redit encore une fois, malheureusement, hein, cette pathologie ne peut pas être guérie et a priori pas évitée.
Sous quelle forme d'ailleurs le curcuma? Parce qu'il existe en poudre, là, dans les... Bon, je ne citerai pas de marque, mais est-ce qu'il vaut mieux l'acheter frais? On le voit aussi en racine maintenant sur des marchés. Alors, d'ailleurs, j'ai essayé une fois, j'avais les mains toutes jaunes. C'est mieux de consommer comment le curcuma?
Alors c'est vrai que le curcuma, il faut faire attention à la bonne origine des poudres qu'on achète, parce qu'on peut acheter des produits qui sont vieux ou qui sont mélangés. Donc il faut vraiment faire attention
le plus pur
à l'origine.
Les bio, si possible.
Exactement. Ouais. Et puis on peut utiliser, comme pour le gingembre d'ailleurs, ces racines qu'on va râper pour avoir cette jolie couleur orange.
Jimmy, vous avez faim, je crois, je le sens.
Exactement, j'adore parler cuisine. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une ou deux recettes si on a le temps? Si ce soir, on veut se faire un petit plat anti-inflammatoire de saison, une salade de brocoli.
Je prends papier-crayon, moi.
Oui, voilà, alors ça, je rends hommage à Ruben Sarfati, qui est à l'origine de ces recettes. En fait, nous avons fait ce livre ensemble. C'est-à-dire, moi, il m'a un peu appelée Madame la Censure, parce que je lui disais pas cette huile, pas ce sucre, pas cette cuisson. Donc, ce sont ces recettes.
Vous lui avez dit, voilà tes ingrédients, maintenant débrouille-toi.
Exactement. Alors, donc, il y a par exemple une salade de brocoli.
J'adore les brocolis.
Voilà, avec une vinaigrette à l'ail et le quinoa soufflé. Brocoli, pourquoi? Donc, déjà légumes avec des fibres.
Quelle page, juste pour me dire, on se fait un truc entre nous là.
Alors c'est 43.
Alors, c'est bien, alors voilà. 43, on y va.
Donc en plus dans les brocolis, il y a des molécules qui s'appellent les glucosinolates qui sont potentiellement anti-cancer. Une vinaigrette à l'ail. Alors là, avec des bonnes huiles.
Pour la laine, pas trop, mais c'est pas mal. Je suis convaincue de l'efficacité de l'ail. Donc,
exactement.
Brocoli, ail.
Et puis le quinoa, qui est un équivalent de légumineuse avec non seulement des fibres, mais un index glycémique bas. Alors, il vous faut, pour cette recette, pour 4 personnes, un brocoli, 2 cuillères de moutarde de Dijon, 2 cuillères de vinaigre de vin rouge. J'aurais dû prendre, excusez-moi, mes lunettes.
4 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 4 cuillères à soupe d'huile de colza, 100 g de choux de Bruxelles, un oignon rouge, un demi-bouquet de cerfeuil, 100 g de roquette, 100 g de quinoa soufflé. Alors bien sûr, on retrouve la recette dans le livre, on ne va peut-être pas la détailler tout de suite, mais je crois que vous vouliez nous donner aussi un petit dessert, il me semble.
Oui, j'avais envie de vous donner un
Jimmy voudrait la petite complète, là, hein, voilà. le plat, le dessert pour ce soir. Il va faire les courses. Là.
Exactement, avec un crumble qui est de saison, avec de la rhubarbe et un crumble à l'huile d'olive, puisque comme ça, on utilise notre huile dont on a parlé tout à l'heure avec son oléocantal. En plus, c'est très facile à faire. Alors, c'est moi qui ai mis les étoiles dans ce livre. Donc, si vous voyez qu'il y a une ou deux étoiles, on peut y
c'est
aller.
C'est bon, c'est pour vous, Jimmy. Deux étoiles, vous pouvez y aller.
Mélanie, je vous laisse lire les ingrédients
oui,
peut-être.
Il faut 1 kg de rhubarbe, 2 cuillères de sirop d'agave, 100 g de farine de châtaigne, 30 g de poudre de noix, 40 g de sirop d'érable, 100 g d'huile d'olive, 1 cuillère à café de bicarbonate, la recette dans le livre. Et donc, ce dessert est délicieux. Vous l'avez goûté, j'espère.
Alors, il est délicieux, il est diététique. J'ai tout goûté. Alors, je dois dire que juste avant le premier confinement, nous avons fait des photos pour le livre. Donc, j'ai commencé à confiner avec les recettes de Ruben et ça a été absolument extraordinaire.
Merci beaucoup, docteur Lacronière, pour tous ces conseils, y compris culinaires. Et donc, j'en profite pour signaler ce livre qui vient de paraître, La cuisine anti-inflammatoire gourmande, que vous avez coécrit avec le chef Ruben Sarfati chez Hugo New Life. Merci encore, docteur.
Merci à vous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Désormais, Benjamin emporte tous un masque pour se protéger du virus et protéger les autres, bien sûr. Donc aujourd'hui, Benjamin, vous allez nous expliquer que l'on peut rester joli. C'est difficile à croire comme ça, mais même avec un masque.
Eh oui, Mélanie, la période est déjà assez morose. Alors si en plus, on doit voir ses collègues sans maquillage, on va tous finir en dépression. Alors c'est vrai, on peut se dire, tiens, il faut éviter le fond de teint, sinon ça va se retrouver sur le masque. Eh bien non, sachez qu'il existe du fond de teint que l'on appelle sans transfert, comme l'explique la maquilleuse artistique Faustine Léa Violo.
Un fond de teint sans transfert, ça va être un fond de teint qui va être plutôt un fond de teint longue durée. Souvent, on va retrouver ce terme-là, ou waterproof, résistant à l'eau. Donc, mieux résistant à la transpiration, à notre propre transpiration. Alors, ça ne va pas forcément durer toute la journée, mais on va dire que ça va prolonger au maximum l'effet fond de teint et l'effet bonne mine.
Et le rouge à lèvres, même chose. Il en existe au format longue tenue qui peuvent tenir jusqu'à 48 heures.
48 heures de rouge à lèvres, génial, c'est génial, Jimmy.
C'est économique en plus. Alors, on l'applique, on laisse sécher plusieurs minutes et ensuite seulement, on peut mettre le masque.
Benjamin, le plus important, c'est de se concentrer sur la peau encore visible, finalement, le haut du visage. On voit que Jimmy, d'ailleurs, il mise tout sur le haut du visage en ce moment.
Et oui, Jimmy le fait. Jimmy met le paquet sur les yeux. C'est pour vraiment ouvrir ce regard. Et pour ça, eh bien, on écoute les conseils de Patrick Lawrence. Il est expert maquillage chez Estée Lauder.
Le meilleur outil pour ça, c'est un crayon pour les yeux. Je suggère de le prendre waterproof, parce qu'il y a quand même des femmes qui portent également des lunettes. Et vous savez que quand on porte des lunettes, il y a de l'humidité au niveau du regard qui fait que le maquillage ne tient pas. Peut-être la meilleure teinte, c'est d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on a justement une grande partie du visage qui est cachée. C'est peut-être les femmes qui utilisaient des crayons marron, peut-être qu'elles passent un marron plus foncé, ou peut-être un gris ou un noir. Et ça peut être des gestes très simples, ça peut être juste face au liner, ça peut être juste ce trait de crayon qu'on va mieux estomper avec un fard à paupières pour avoir quelque chose de beaucoup plus flouté, de moins graphique. Il y a aussi quelque chose qui est assez important pour agrandir le regard. C'est peut-être que cette fois-ci, plutôt que de mettre du mascara que au-dessus, c'est de mettre du mascara en dessous et au-dessus. Et ça, c'est assez spectaculaire dans l'ouverture du regard.
Et puis, je crois que le masque aussi, Benjamin, nous oblige à revoir nos habitudes de coiffure. Je crois que Mélanie, vous n'avez rien changé.
Alors, un peu moins pour vous, Jimmy.
C'est tout pareil.
C'est surtout pour les cheveux longs. C'est vrai que le masque occupe les deux tiers de notre visage, toute la partie basse notamment. Eh bien, on va compenser et il va falloir mettre du volume sur le haut de la tête. Donc, on évite de faire une frange et à la place, on va plutôt opter pour faire un chignon, un bun comme ça, comme moi, au-dessus
il est
de
parfait,
la tête.
Regardez Benjamin, ce look incroyable.
Et l'autre façon d'apporter du volume, eh bien, c'est de se boucler les cheveux. Alors vous, Mélanie, vous les avez naturellement, mais sinon, on peut utiliser
ondulé,
des appareils.
Ondulé, je dirais plutôt Jimmy, ce serait ondulé. Bouclé s'il ne rédit pas, là, comme il fait tout le temps avec le fer. Là.
Et on pourra utiliser des appareils comme des boucleurs, à utiliser toujours sur cheveux secs. Et enfin, une recette de grand-mère, selon Charline Rousset, qui est coiffeuse et formatrice en coloration végétale, on peut utiliser des rouleaux de mise en plis.
Des rouleaux de mise en plis, ça se trouve un peu partout dans les boutiques du coiffeur. C'est un rouleau scratch, comme si c'était un peu du velcro. On enroule nos cheveux autour de ces rouleaux. Ça se fixe tout seul. Juste le fait d'enrouler, le cheveu se fixe en fait autour du rouleau. Une fois qu'on va les enlever, le cheveu aura beaucoup plus de volume en racine. Alors, c'est une très bonne astuce pour pouvoir se donner du volume et sans agression en plus par un apport thermique comme le lisseur ou le boucleur.
Benjamin, un dernier petit conseil. Jimmy me demandait avant l'émission, qu'est-ce qu'il peut faire contre ces petits boutons là qu'il a depuis qu'il porte le masque? Vous voyez, au niveau du menton, des joues, là, il en a un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Alors, je le rassure, ce n'est pas de l'acné. Hein. Le masque ne développe pas d'acné selon les spécialistes. Mais effectivement, on peut, chez certaines personnes, eh bien, voir apparaître des petits boutons ou des rougeurs, comme l'explique le docteur Nadine Pomaret, dermatologue à Paris.
Sur ce qui est rosacée, rougeur, le fait qu'il y ait le port du masque de façon prolongée peut induire une chaleur plus importante et par conséquent, il peut y avoir effectivement des phénomènes de flush ou de rougeur exacerbée. Ça, c'est vrai. Donc, le nettoyage du visage, c'est 2 fois par jour, que l'on se maquille ou non, avec un produit nettoyant doux, non agressif, non décapant. Et la crème de soin, également, le produit de soin est important. Alors, on va le choisir, bien sûr, en fonction de son type de peau, mais il est important de maintenir cette routine impeccable matin et soir.
Et surtout, changer de masque régulièrement, parce que si vous portez un masque plusieurs jours d'affilée, il va accumuler de la transpiration, de la salive et d'autres saletés qui n'aident pas à avoir une jolie peau.
Très bien, et un masque plusieurs jours, Jimmy, de toute façon, c'est pas bon non plus pour la vraie raison pour laquelle on le porte. Hein.
Effectivement, vous avez raison, Mélanie.
Merci, Jimmy. J'adore quand tu confirmes juste ce que je dis. Merci à tous les deux.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et vous êtes avec nous depuis 15h. Tout de suite, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, pour terminer la semaine, on aimerait bien savoir à partir de quand on peut parler d'addiction au sexe. À un moment donné, on en parlait tout le temps de cette histoire d'addiction au sexe. On en parle un peu moins ces derniers temps, mais à partir de quand on considère que ça devient vraiment un comportement addictif?
Le principe de l'addiction, c'est quand on n'est plus libre de faire sans. Quel que soit le sujet, la sexualité comme la nourriture.
Le tabac, l'alcool.
Exactement. C'est-à-dire que si dès lors que je m'en prive, je suis en souffrance, je suis addict. C'est-à-dire que ce n'est pas. La sexualité ne remplit plus son rôle de communication avec quelqu'un parce que je crée une histoire, j'écris une histoire avec ce quelqu'un, mais c'est un besoin viscéral pour moi, sans quoi je crois que je vais défaillir, que je vais mourir, que je vais
être en manque,
perdre, que je vais être en manque, que je vais déprimer, que je suis en danger en réalité.
Est-ce que c'est si fréquent? Parce qu'on a l'impression que, de façon générale, un homme est addict au sexe, alors qu'il faut différencier, vous l'avez dit, le plaisir de la véritable addiction. Est-ce que ça reste quelque chose à la marge?
Alors en fait, c'est ça, c'est qu'il y a des tas de mots qui sont... Enfin, on a l'idée par exemple qu'une femme nymphomane, c'est une femme qui est géniale parce qu'elle en a envie tout le temps, c'est formidable, alors que c'est plutôt une femme en souffrance parce que justement, il lui faut absolument faire l'amour pour se rassurer quant à elle-même. Et donc, on laisse à penser que ça, c'est formidable. Du côté des hommes, on dit qu'il est complètement addict, comme si c'était un surhomme, parce que c'est un homme qui ne serait pas addict, qui ne pourrait passer une journée sans faire l'amour, ou plusieurs journées sans faire l'amour, serait finalement un petit joueur et qui pourrait se poser la question de savoir si sa sexualité est normale. Non, nous pouvons, rappelons-le, nous avons été adolescents, notre puberté installée, nous n'avons pas fait l'amour du jour au lendemain et nous avons passé des semaines, des mois, des années à élaborer sur le sujet de la sexualité pour passer à l'acte et pour faire grandir cette sexualité. Et notre sexualité, c'est pas parce qu'on est rentré dedans qu'elle n'a pas matière à être nourrie et grandir encore. Et pour grandir encore, il faut qu'elle soit libre et donc certainement pas un besoin comme on a le besoin de respirer, sinon quoi on pourrait tout d'un coup tout perdre de nous-mêmes.
Je connais des personnes qui sont obligées, c'est des personnes célibataires, qui sont obligées chaque semaine d'avoir des relations sexuelles avec différentes personnes. Est-ce que ça en fait pour autant des accros au sexe, le fait de vraiment être à la recherche tout le temps de, comme on appelle aujourd'hui, des plans cul, quoi?
Alors, c'est pas nécessairement des accros au sexe, parce que ces mêmes personnes, certainement, par exemple, dans le cadre d'une relation entretenue, ne feront pas nécessairement l'amour tout le temps. Donc, c'est pas tant le sexe que le sexe qui est le moyen d'une existence dans le regard de l'autre. Souvent, ces personnes-là, dès lors qu'ils sont dans la relation avec quelqu'un, ils existent pour ce quelqu'un par le lien amoureux, comme par hasard, la sexualité perd de son charme ou perd de son intérêt primordial. Donc, c'est pas le fait d'avoir à faire l'amour tout le temps qui fait qu'on est addict. Ce qu'on est addict, c'est quand on est en souffrance, voire et que cette souffrance nous fait souvent d'ailleurs être agressif avec les autres, parce qu'il y a une véritable difficulté à faire avec soi-même en dehors de ce vécu sexuel.
Encore une fois, on a l'impression que c'est plus un problème d'hommes. Est-ce que les femmes peuvent être aussi concernées par ça ?
Absolument, oui. Il y a des femmes qui sont vraiment dans...
Vous avez des demandes de consultation sur ce motif-là, d'un point de vue féminin ?
Oui, alors, c'est vrai qu'il y a plus de demandes sur la difficulté d'avoir du désir que sur une urgence.
Ouais, c'est quand même fréquent dans l'autre sens.
Oui,
parce
qu'encore une fois, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les hommes, il y a peu de consultations sur ce sujet-là, tout simplement parce que notre société considère que le maître étalon de la valeur d'un individu, c'est sa compétence à faire l'amour. Et dès lors qu'elle est complètement débridée, même et voire sans limite, eh bien on considère que ce n'est pas un problème. Alors que dès lors que quelqu'un ne fait pas l'amour pendant une semaine ou 15 jours, on se dit un problème.
Il y a un petit souci, là.
Donc là, il se retrouve dans des cabinets. Donc en fait, c'est très intéressant parce que le fait qu'il n'y ait pas une demande ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une problématique.
Bien sûr. Jimmy, vous disiez, pardon.
Non mais je disais, est-ce que, par exemple, on a l'impression que c'est un problème de célibataire. Est-ce qu'on peut être en couple et addict au sexe ? Est-ce que l'état, enfin, le fait d'avoir une relation ou pas, ça influe justement sur ça ?
Oui, ça fait des personnes qui sont en couple, mais qui, même en couple, sont ou très en demande, et du coup, ça devient presque une tyrannie dans la relation, ou ils vont à part, en dehors de leur couple, pour aller satisfaire une urgence, ou alors c'est la masturbation qui remplit ce rôle-là, parce qu'il y a une véritable anxiété. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'expression d'un pouvoir tout puissant de l'individu qui s'épanouit dans sa virilité ou sa féminité, mais bien une anxiété majeure.
Ils doivent consulter ces gens-là quand même. C'est mieux d'aller chercher de l'aide.
Ben, oui, sauf qu'il faudrait bien sûr qu'ils arrivent à reconnaître eux-mêmes que c'est une anxiété qui les guide. Et pour ça, il faudrait qu'on arrête de leur laisser penser qu'ils sont des surhommes ou des surfemmes, bien au contraire.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Femme au volant, histoire au tournant, n'est-ce pas Stéphane ?
Oui, d'ailleurs, joyeux anniversaire cher Mathieu. Oh. Il faut que la France sache, c'est votre anniversaire. Mais dans Historiquement Vôtre, nous allons parler des femmes qui ont été des pionnières au volant. La duchesse d'Uzès, la première femme à passer le permis de conduire. Françoise Sagan, qui allait à toute allure, en fait, à travers la vie. Et vous avez choisi un mannequin qui adore les belles cylindrées.
Et vous avez combien de voitures, vous, dans votre garage, Stéphane ?
Oh, j'en ai une, et encore, elle est toute petite.
Une, mais vous êtes un minable, un ringard.
Elle en a plus de
30. Kendall Jenner, elle a aussi 161 millions d'abonnés sur Instagram.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute, et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.